J'aimerais qu'on ouvre notre Bible dans le livre de Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, Jean chapitre 5. On va lire le verset 1 au verset 9 et le verset 13 au verset 14. Jean 5, le verset 1 à 9 et le verset 13 à 14. Alléluia. Est-ce que tu y es? Ça va? Jean chapitre 5, le verset 1 à 9, le verset 13, le verset 14. Je vais lire au nom de Jésus. Si tu y es, est-ce que tu peux te lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? Je lis au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Verset 13, verset 14. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Alors, cet après-midi, je voudrais exhorter en quelques minutes sur le thème « Paralysé par le péché ». Paralysé par le péché. Alléluia. De nombreuses personnes aujourd'hui seraient devenues ou sont devenues des pilotes de haut vol et seraient devenues des pilotes de haut vol, des grandes personnes, des personnes géantes, des personnes puissantes si elles n'avaient pas péché. Dans notre texte de cette soirée, bien-aimée, nous réalisons l'histoire d'un homme qui était paralysé et qui était assis à un endroit qu'on appelait Bethesda. Je vous ai dit que Bethesda, ça veut dire maison de la miséricorde. Alléluia. La maison de la miséricorde, ça veut dire l'église. Alléluia. Ça veut dire l'église. Cet homme était paralysé dans l'église. Cet homme était immobilisé dans l'église. Cet homme n'avait pas de possibilité d'évoluer. Quand on dit de quelqu'un qu'il est paralysé, ça veut dire qu'il a perdu ses moyens de mobilité. Alléluia. Il a perdu sa capacité d'évoluer par lui-même. Nous pouvons être paralysés de plusieurs ordres. Nous, il y a des gens qui sont paralysés émotionnellement dans leur vie à cause des blessures du passé. Il y a des gens qui sont paralysés financièrement parce qu'ils n'ont pas de source de revenus. Il y a des gens qui sont paralysés académiquement parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'atteindre un certain niveau. Il y a des gens qui sont paralysés, on peut citer énormément des secteurs d'activité. Mais la Bible nous dit ici que cet homme était paralysé physiquement. Alléluia. Physiquement. Mais quelle était l'origine de sa paralysie alors qu'il était paralysé dans l'église? Alléluia. Pendant 38 ans, il était assis au même endroit. Bien-aimé. Et la Bible dit qu'à cet endroit, il y avait des aveugles, il y avait des sourds, il y avait des muets, il y avait toutes sortes de paralysies. Mais cet homme, pendant 38 ans, n'a pas eu de l'aide pour pouvoir évoluer dans sa vie. N'a pas eu de soutien pour pouvoir évoluer dans sa vie. Alléluia. Et nous voyons que cet homme avait fait 38 ans de douleur, 38 ans de pleurs, 38 ans de déception et de stagnation. Il était là à attendre le mouvement de l'eau. Mais chaque fois qu'il descendait, qu'il décidait de bouger, à l'apparition de l'ange à une certaine saison, il était toujours déçu. Quelqu'un d'autre prenait toujours sa place. Et cela durait depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus arrive à cet endroit. Jusqu'à ce que Jésus, passant par Jérusalem, va faire un arrêt à Bethesda. Alléluia. Va faire un arrêt à Bethesda. Et va aller vers cet homme. Et lui demander, lui poser une simple question à laquelle chacun de nous aurait simplement répondu par le oui. Alléluia, je le veux. Il va dire, veux-tu être guéri? Et cet homme, à cause de la paralysie, vous voyez qu'il n'était pas seulement paralysé physiquement, mais il était également et davantage paralysé émotionnellement. Il était dans une crise de dépression. Oui, bien-aimé, la dépression peut faire en sorte que tu perdes même ta saison de visitation. La dépression peut faire en sorte que tu passes à côté des gens qui peuvent bénir ta vie, qui peuvent faire du bien à ta vie. Des gens, oui, qui peuvent apporter une consolation à ta vie à cause de certaines blessures. Oui, bien-aimé, tu taxes les hommes de la même manière. À cause de certaines blessures, tu taxes les femmes de la même manière. Les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Les hommes, vous êtes toutes les mêmes. Quand vous voyez une personne avoir une telle expression, il est malade, mon bien-aimé. Il est malade, il est paralysé. Alléluia. Dis avec moi, il est paralysé. Il a besoin de guérison. Alléluia. Quand quelqu'un finit sa conversation en disant, les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Ne considérez pas, il est malade, il est dans le coma. Alléluia. Mais cet homme n'était pas seulement physiquement paralysé, mais il était encore et plus profondément paralysé émotionnellement. Bien-aimé, comment comprendre que tu es paralysé des pieds, mais tu n'arrives pas à te déplacer plus vite qu'un aveugle? Tu n'arrives pas à te déplacer plus vite qu'un sourd. Alléluia. Si je mets un sourd, je mets un muet ici, je mets un paralysé des pieds et je dis courez, le muet n'entendra pas le son du départ. On est bien d'accord. L'aveugle ne verra même pas. L'aveugle ira dans le sens au contraire. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo qu'on m'a envoyée sur mon téléphone. Et on donnait un top chrono à plusieurs personnes. Il y avait une femme et quelqu'un avait mis le haut avait mis une légende à cette vidéo. Il avait dit, voilà comment les femmes se comportent. Alléluia. C'est-à-dire que quand on disait aux gens de courir, la femme là, parce que ses yeux étaient bandés, elle allait tomber dans un plein, dans un histoire de foin là-bas. Alléluia. Il dit, voilà comment les femmes se comportent. Quand tu dis va à gauche, elle va à droite. Sur la photo, sur la vidéo, j'ai dit, mais c'est pas sérieux. Tout le monde, si on bande tes yeux, tu vas aller dans la mauvaise direction, naturellement. Alléluia. Alors, si on met l'aveugle et on dit top chrono, je suis convaincu que l'aveugle ira à gauche. Mais lui, il est paralytique. Donc, il a les yeux, il a les oreilles. Il peut évoluer plus rapidement qu'eux. Alléluia. Mais 38 ans, il n'a pas pu évoluer plus que toutes ces personnes. Ça veut dire que son problème n'était pas d'ordre physique. Son problème était d'ordre psychologique. Alléluia. D'ordre psychologique. Ça veut dire que cet homme avait un problème avec sa vie. Avait un problème avec son cœur. Avait un problème avec les relations autour de sa vie. Vous allez voir des gens, chaque fois qu'ils vont vouloir expliquer leur échec, c'est par rapport à X, c'est par rapport à Y. Bien aimé, tu as un problème. Si tu ne réalises pas que l'échec de ta vie a premièrement comme source toi-même, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Alléluia. Et donc cet homme, quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il répond? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, un autre. Pendant que j'y vais, ça veut dire que pour lui, le jour qu'il doit partir, tout le monde doit s'asseoir. La vie est une compétition, les amis. Pendant que c'est son tour, il va dire, oh, c'est mon tour maintenant. Tout le monde devait s'asseoir, lui dérouler le tapis rouge. Vas-y, et l'acclamer sur le chemin. Non! La vie, c'est une compétition. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus a inauguré pas, Jean-Baptiste, l'aide de la violence spirituelle. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir en suppliant. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir en quémandant. Il y a des choses que tu ne peux avoir qu'en étant violent. Je ne t'envoie pas aller bagarrer. Je ne t'envoie pas aller faire le combat de Nganou. Alléluia. Calme-toi. La violence est d'abord une attitude d'esprit. Alléluia. La violence est d'abord un caractère. Alléluia. Oui, se lever. La violence, c'est d'abord la décision de croire que toi aussi tu as droit au bonheur. Et pas seulement les autres. Alléluia. Je vous ai toujours dit, avant que je ne rencontre maman, moi je savais que le bonheur c'était pour les autres. Et j'étais heureux. J'étais heureux de faire le bien pour les autres. Et qu'on ne me le rende pas, j'étais heureux. Et j'étais même tout content. Et je me souviendrai toujours de cette parole. Un jour, elle m'a dit ça. Et ça, c'est comme si je sortais d'un long coma. Elle m'a dit, toi aussi, tu as droit au bonheur. Ah, j'ai dit, quoi? Personne ne m'a dit ça. Personne ne m'a jamais dit ça. Elle m'a dit, toi aussi, tu as droit au bonheur. Et ça a fait un déclic dans mon esprit. J'ai compris que ce que je souhaitais pour les autres, je devais aussi le souhaiter pour ma vie. Alléluia. Je devais le souhaiter pour ma vie. Bien-aimé, si pendant ce programme de jeûne dans lequel tu entres, tu ne penses qu'aux autres sans penser à toi, tu as échoué. Si pendant ce programme de jeûne, tu ne penses qu'aux autres, tu ne mets que la priorité sur les autres, sans penser à ton équilibre personnel, tu vas chuter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a un épanouissement quand on a à faire du bien aux autres. Il y en a encore lorsqu'on a du bien, on se sent encore mieux lorsqu'on le fait pour soi-même. Et quand lorsqu'on contemple ta vie évoluer, tu dis que waouh, je suis content. Je suis content. Alléluia. 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 Je me souviendrai toujours de mon premier voyage en Allemagne. Et ce jour-là, on devait partir prier quelque part. Et pendant qu'on roulait dans le véhicule, je suis resté muet. Et la bien-aimée qui était avec moi dans la voiture m'a dit, mon révérend, à quoi tu penses? J'ai dit, je pense à tout ce que Dieu m'a dit pendant toutes ces années. Et je crois que tout est vrai maintenant. Alléluia. Il y a certaines choses qui doivent t'arriver pour que tu croies à ce que Dieu t'a dit depuis longtemps. Hein. Si ça ne t'arrive pas, tu vas croire que ce que Dieu t'a dit, ce n'est qu'un rêve. Alors cet homme était là. Et Jésus va prendre sur lui de l'aider, de parler à son âme qui était amochée, qui était brisée, qui était paralysée. Il va dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans la Bible française courante, c'est prends ta natte et marche. Alléluia. Prends ta natte et marche. Prends ton lit et marche. La Bible dit aussitôt. Ça dit que Jésus a commandé à l'âme de cette personne. Et instinctivement, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il y a des choses que pour pouvoir t'aider à sortir de là, on doit te bousculer. Alléluia. Il y a des personnes pour les sortir de leur coma, tu dois les gifler. Ouvre les yeux. Les choses ont changé devant ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Un jour, je vous ai dit ça. Parfois, quand vous restez dans vos problèmes, dans vos situations, vous croyez que la vie s'est arrêtée avec vous. Non. Non. Alléluia. Un jour, je vous ai dit, pour comprendre que la vie est plus grande que vous et que vous n'êtes qu'un élément parmi tant d'autres, prenez un peu de votre temps. Habillez-vous bien. Allez à Bonanjo dans les rues des banques. Entrez dans chaque banque. Vous ressortez, faites 10 minutes. Vous allez constater que la vie va très vite. et que ça ne dépend pas de vous et que vous devez faire tout pour rattraper le train. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Papa, tu crois que tout va mal? Non. C'est parce que tu n'as pas vu quelqu'un d'autre à côté. C'est parce que tu n'as pas entendu l'histoire de quelqu'un d'autre à côté. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas écouté le défi de l'autre à côté. Hier encore, vendredi ici, je nous disais que le père d'Abraham a fait plus de temps à attendre l'enfant qu'Abraham lui-même. Pour pouvoir avoir Abraham, il a attendu 40 ans. Abraham n'a attendu que 25 ans. Mais nous ne connaissons que l'histoire d'Abraham. Le grand-père d'Abraham a mis au monde Nahor, l'arrière-grand-père a mis au monde le grand-père à 29 ans. Le grand-père a mis au monde quand il avait 70 ans. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Alléluia. Et le petit-fils lui-même, il arrive, il attend 25 ans avant de mettre aussi au monde. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Alléluia. Il y a certaines histoires lorsqu'on raconte de la Bible, lorsqu'on retranscrit ça dans ta vie, on fait le parallèle à ta vie, tu te rends compte que ton histoire est dans la Bible. Alléluia. Tu dis, mais le verset, c'était toujours là. Oui, c'est toujours là. Alléluia. Ça a toujours été là. Tu dis, mince, mais c'est ma vie ici. Un pasteur disait que chacun de nous, la vie de chacun de nous est liée à un verset dans les Écritures. Que le jour où tu vas trouver le verset qui est lié à ta vie va évoluer. Il a dit, c'est dit que mince. Regardez, pendant la nuit de la traversée, Dieu a fait quelque chose ici. À la fin du service, avec beaucoup de tourbillons que j'ai fait ici, courir et revenir, j'ai perdu mon message de langue. Alléluia. J'ai fouillé. C'était d'abord ici sur la table. Pendant que les personnes qui rangeaient la table de la Sainte-Seine, j'ai envoyé le pasteur Emmanuel, il est venu récupérer, il est venu dans mon bureau. À peine il est venu, il m'a remis au bureau. Les gens sont entrés. Je ne sais pas à quel endroit j'ai posé. J'ai dit, Seigneur, le diable me combat qu'au début comme ça. Ma part de problème est grave. Alléluia. Mais, et j'ai commencé à prier. Oh Dieu, ta grâce. Donne-moi de retrouver. Je me rappelais qu'un seul mot, même pas le texte. Parce que je n'avais pas eu bien le temps de lire. Il y avait trop de gens qui circulaient autour de moi. Alors, je profite. Quand je finis le culte, attendez d'abord. Avant d'entrer dans mon bureau, vous me distrayez. Alléluia. Alors, j'ai commencé à prier. On était le premier. Je rentre à la maison. Maman me partage son message. Je ne veux pas dire que j'ai ma part. J'ai dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le 2, j'ai dit, oh Dieu, ta miséricorde. Ce n'est pas le premier jour, ma part est grave. Si je paye ta parole, je fais comment? Je ne peux pas aller piquer un autre. J'ai besoin du même message. On s'est retrouvés ici vendredi pour la prière, c'est ça, n'est-ce pas? Le prochain jour de culte, c'était quel jour? Mercredi. Je n'avais pas toujours de suite. Non. Oui, je n'avais pas toujours de suite. Jeudi. Vendredi, on se retrouve ici. J'entre dans mon bureau. Mathé me dit, papa, les messages là qui sont devant le trône, les messages de l'ange, j'ai dit, prends le panier, tu viens dans. Enlève ça, viens me remettre, je vais ranger ça. Alors, pendant que je range, pendant que je prends le panier, je fais une dernière prière et dis, oh Dieu, pense à moi, comme j'ai pensé à tous tes enfants. J'ai balancé la main dans le panier, j'ai récupéré le même texte. Le même. Alléluia. Le même texte. Et regarde, je dis, tu es fort. Tu es fort. Donc tu me regardais depuis, tu me rigolais. Tu te moquais de ma tête. Ok, ça va. J'ai pris, j'ai remis. Vous savez quand est-ce que j'ai retrouvé le message même? Ce matin. C'était dans mon manuel de méditation. Quand j'ai ouvert pour prier, ça sort. Il dit que reste là-bas, comme tu reste là-bas. Alléluia. Bien-aimé. Pourquoi je nous raconte ça? Parce que je voudrais que vous réalisez que quand tu peux rester dans la maison de Dieu avec ta situation, si tu n'as pas une parole de Dieu, tu vas rester au même endroit. Je vous dis que cet homme était dans l'église Bethesda, c'est la maison de miséricorde. Mais il n'avait pas eu droit à une parole. Une parole. Thomas a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Bien-aimé, écoutez bien ceci. Et lorsque nous évoluons dans la lecture, nous allons nous rendre compte que la Bible dit que c'était un jour de sabbat que Jésus va guérir cet homme. Alors, les Juifs vont dire que non, le jour du sabbat n'est pas adapté pour guérir. Alléluia. Non, qui t'a même guéri? L'homme, il ne connaissait même pas qui l'avait guéri. Alléluia. Il dit non, c'est un homme, il est entré, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tout ce qui m'a intéressé, c'est que je suis guéri. On dit, mais comment un inconnu peut te guérir et toi-même tu acceptes? Écoutez, il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Prends ton lit et marche. Et ils vont lui dire, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Il dit, je ne connais pas. Je ne connais pas. Verset 13, la Bible dit que, il va donc leur dire qu'il ne connaît pas. Et juste quelques minutes après, il va rencontrer Jésus. Et Jésus va lui dire quelque chose de très fondamental, qui va être le fondement de ce que nous partageons ce soir. Parce qu'on s'est toujours posé la question, cet homme, pourquoi il était paralysé? Pourquoi il était là? Alléluia! Pourquoi il était là? Et Jésus va dire quelque chose au verset 14. Il dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Autrement dit, le problème de la paralysie de cet homme n'était pas le rejet, n'était pas l'abandon. Alléluia! Mais c'était le péché. C'était le péché qui était à la base de son état. C'était le péché qui était à la base de sa situation. Alors tu peux être à l'église et tu vis dans le péché. Tu peux être dans l'église et tu gardes le péché en toi. J'ai aimé ce que ma fille Judith partageait ici en disant vraiment elle rend grâce. Parce que depuis qu'elle s'est engagée avec Jésus, elle n'a pas failli. Et dans son domaine de travail, il est facile d'être séduit. Il est facile. Alléluia. Alléluia. Il est facile. C'est une jeune femme. Elle est toute belle. Vous-même, vous constatez qu'elle est bling bling. Alléluia. Elle ne reste pas sans pomponner. Chaque deux minutes, papa, papa, papa. Alléluia. Son mari n'est pas à côté d'elle. Son mari n'est pas là. Et ça fait 10 ans qu'il n'est pas là. Elle est une jeune femme. Qui peut rester comme ça? Si Dieu n'aide pas la personne. Alléluia. Je suis convaincu que chaque jour de la semaine, il y a un baladeur à côté. Tu fais comment? C'est comment? Viens, te gère. Viens. J'ai une de mes cousines, de mes grandes cousines qui a donné sa vie à Jésus. Elle avait 18 ans. Alléluia. Elle s'est mariée à 43 ans, sans connaître d'homme. Et elle travaillait dans une grande boîte pétrolière dans la ville. Et un jour, elle me dit, est-ce que tu imagines que mon collègue vient et me dit, bien que je te dépanne avec l'enfant. Tu souffres trop. Alléluia. Le poste qu'elle occupe fait qu'elle marche avec des grosses personnes. Et tout le monde la voit toujours seule. C'est comment? Le collègue vient dire que dis donc, comme tu souffres, je vais te dépanner. On sort une minute, je te donne un enfant pape, ça te dépanne un peu. Comme ça, tu as au moins quelqu'un avec qui tu peux marcher. Et le jour-là, je lui dis, grande soeur, tu as fait comment? Elle dit, mon frère, je ne peux pas renoncer à mon alliance avec Dieu. Si je dois rentrer auprès du Seigneur comme ça, je rentre. Et nous avons commencé à prier. Et quelques temps plus tard, Dieu lui a donné son mari avec qui aujourd'hui, elle a 4 enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? 4 enfants. En 3 ans de mariage, elle a eu 4. C'est formidable, n'est-ce pas? Dieu est terrible. Il embarrasse. Premier accouchement, un garçon. Deuxième, les jumeaux, les jumelles. Troisième, quatrième accouchement, une fille encore. Avant, quand j'arrivais à la maison c'est trop calme. Aujourd'hui, quand j'arrivais, je dis, ouais! Ouais! Allez dans votre chambre, allez dans votre chambre, allez dans votre chambre! Bien-aimé, vous devez savoir qu'est-ce que c'est que le péché. C'est quoi le péché en réalité? Selon les Écritures, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Deutéronome chapitre 9, le verset 7. Le péché, c'est le mépris de Dieu et de son amour. Romains chapitre 2, le verset 4. Romains 2, le verset 4. C'est quoi le péché? Le rejet de Jésus-Christ. Jean chapitre 16, le verset 9. Jean 16, le verset 9. Voyez? Le péché selon les Écritures est donc dans la chair, agit dans notre chair. Le péché s'exprime par plusieurs manières. C'est pourquoi les conséquences du péché, c'est quoi? L'orgueil, la colère, toutes ces choses, l'animosité, toutes ces choses que Galates chapitre 5, à partir du verset 19, nous explique. Alléluia. Amen. L'envie, l'ivrognerie, toutes ces choses. Amen. Amen. Alors, à côté du péché, il y a ce qu'on appelle, vous devez savoir qu'il y a la différence entre le péché et les péchés. Amen. Le péché et les péchés. Le péché, selon les Écritures, est dans la chair, alors que les péchés sont dans le comportement. Les péchés, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité. L'iniquité est un schéma de péché dans une famille. Quand tout le monde dans la famille, depuis des générations, sont des ivrognes, c'est devenu une iniquité. Alléluia. Alléluia. Quand le péché devient générationnel, ça devient les péchés. Ça devient l'iniquité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il punit l'iniquité sur la troisième, la quatrième génération. Il punit l'iniquité par le péché. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Lévitique que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est une loi dans nos membres. Les péchés sont les transgressions dont nous nous sommes rendus coupables. Alléluia. Le péché concerne notre être. Les péchés sont dans le domaine du faire, de l'application, de la pratique. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme, je vous ai partagé ce témoignage. C'était sa copine qui me l'avait amené pour la prière. Et j'ai prié avec lui. Et ce jeune homme, dans leur famille, ils étaient tous des alcooliques. Sa mère, ses frères, ses soeurs, tout le monde était alcoolique. Il connaissait toutes les augmentations sur la boisson. Alléluia. Et quand il a donné sa vie à Jésus, je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à arrêter l'alcool? Il a dit, si Dieu peut me délivrer de ça, je vais le suivre. Et nous avons prié, je l'ai mis comme dans un, il était arrivé aussi pile à un moment de jeûne comme celui-ci, que j'avais organisé. Il est entré dans le jeûne pendant 14 jours. Je crois le 7e jour, il dit qu'un matin il sortait pour venir à la prière, sa mère l'a fait asseoir. Il a eu conseil familial. Première question qu'on lui a posée, pourquoi tu ne bois plus? Tu veux montrer que quoi? Alléluia! Pourquoi tu ne bois plus? Tu trouves normal de ne pas boire? Un homme doit boire! Alléluia! Vous savez, mon père a fait tout pour que je boive l'alcool. Un jour, mon père, il dit à tout le monde, chacun prend une bière. J'ai dit, non, donnez-moi de l'eau de jus. Il dit, un homme, c'est l'alcool. Un homme doit boire l'alcool. J'ai dit, ah, ça ne marche pas avec moi. Chacun connaît ce qui marche avec lui, ce qui ne marche pas avec lui. Alléluia. Moi, si tu choisis l'alcool, c'est ton problème. Moi, ça ne marche pas. À cause de ma consécration avec Dieu, je ne peux pas me permettre ça. Alléluia. Alléluia. Et donc ce jeune homme-là, Dieu l'a délivré. Et ils étaient deux seulement dans la famille qui ne buvaient pas. Et c'est là où il a compris pourquoi son oncle qui est devenu pasteur plus tard était rejeté par toute la famille. Parce que le même jour, on l'a chassé de la maison. Sa propre mère. Écoutez, le monde spirituel ne connaît pas les émotions. Non, c'est mon fils, c'est ma fille. Non, non, non. 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 Alléluia. 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 Je peux avancer? Bien-aimé. Le péché est du domaine de la vie. Le péché est ce que nous sommes. Les péchés sont ce que nous faisons. Le péché est ce que nous sommes. Et les péchés sont ce que nous faisons. Le péché du domaine de la vie. Les péchés sont celui de la conscience. De la conscience. Et Jésus dit, voici, tu as été guéri. Prends conscience. Tu as été guéri. Ne refais plus les mêmes choses. Vous savez, Dieu n'est pas là pour exposer nos péchés, nos vies. C'est la raison pour laquelle nulle part dans ce texte, Jésus dit, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne prends plus la femme de quelqu'un. Alléluia. Ne prends plus le mari de quelqu'un. Non. Dieu n'est pas là pour exposer la vie des hommes. Il dit, ne pêche plus. Ce que tu faisais là, tu connais. Arrête. Arrête. Un jour, je suis arrivé dans une église pour prêcher. Et le papa pasteur qui m'avait invité disait, « Ah, quand mon fils va prendre la parole, il va exposer toute ma vie. » J'ai dit, « Papa, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne suis pas venu exposer quelqu'un. Toi-même, tu connais ce que tu fais. Donc, il faut arrêter. » Alléluia. Il faut arrêter. Alléluia. Une dame est venue un jour me voir. Elle avait désobéi à la volonté de Dieu et elle était tombée en grossesse avec un jeune homme sans être mariée. Et je l'avais prévenue. Et quand elle est tombée enceinte, elle a eu une grossesse extra-utérine. Et comme ça a compliqué, elle m'a cherché. Vous savez, quand c'est bon chez vous, vous ne nous cherchez plus. Quand ça prend feu, vous cherchez nos maisons. Elle dit, la femme là a cherché ma maison. J'étais à Kribi. Elle a dit, j'attends devant ton portail jusqu'à ce que tu arrives. Elle dit, maman, j'arrive la nuit. Elle dit, j'attends. On est arrivé. Elle ne m'a pas dit direct que non. Elle a commencé à dire, non, j'ai eu un songe sur toi. J'ai eu un songe. Vraiment, Dieu m'a montré que c'est toi qui peux m'aider dans ma vie, qui peux m'encadrer. J'ai dit, le songe, c'était quoi? J'étais vu sur une montagne. Hein, et tu essayais de me faire monter. Et tu m'appelais, mais il n'arrivait pas à tenir ta main. J'ai dit, ah, ok. Bon. Est-ce que je peux te raconter une histoire? Elle dit, oui, tu peux me raconter une histoire. Elle dit, ok. Ça, moi, j'aime les histoires. Qui aime les histoires? Alléluia. J'ai dit, je vais te raconter une histoire. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un roi qui était un homme bien, que Dieu aimait. Mais un jour, cet homme est allé prendre la femme d'autrui. Il a couché avec, elle est tombée enceinte. Et Dieu a puni cet homme en prenant son enfant. Et elle a su sauter, elle avait, hey, ça veut dire que mon enfant va mourir. Il dit, donc tu es enceinte. Alléluia. Il dit, ah, tu es enceinte, ok. Et l'enfant est mort. Et cet enfant est mort. Oh, l'histoire, vous savez, moi, j'aime ce que Nathan a fait avec David. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas raconter leur vie comme ça direct. Ils peuvent te tuer. Alléluia. Parfois, on a les problèmes. Beaucoup de prophètes ont des problèmes avec des gens parce qu'ils ont manqué de sagesse pour communiquer. Alléluia. Ils ont manqué. Nathan savait que s'il allait direct, il dit à David que tu as pris la femme de quelqu'un, voilà, Dieu va te punir. Gna gna gna. Il devait dire, mon cher ami, prochaine destination, la tombe. T'es un homme de guerre. T'es un homme de guerre. Donc, tu es quelqu'un qui n'avait pas un problème devant lui. Le gars lui a raconté une histoire. Et à partir de cette histoire, la pensée de Dieu s'est exprimée dans sa vie. Alors, mes bien-aimés, beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu. Et sous le manteau de la sainteté, sous le manteau de la consécration, font des choses que Dieu n'aime pas. Font des choses que Dieu n'aime pas. Rappelez-vous dans le livre de Jérémie, Dieu transporte Ézéchiel dans le temple. Il voit les sacrificateurs en train d'adorer Dieu. Et Dieu lui dit, écoute, je vais te montrer encore quelque chose. Dieu dit, perce le mur. Il perce le mur. Dieu dit, regarde, il revoit les mêmes sacrificateurs de l'autre côté en train d'adorer les idoles dans le même temple, dans la même maison. Dans la même maison. C'était pas deux églises différentes. C'était le même temple où la présence de Dieu était. Je nous dis tout le temps, le diable n'a pas peur de ta vie de prière. Il a peur de ta vie de sanctification. Alléluia. Il a peur de ta vie de sanctification. Il n'a pas peur de ta vie de prière. Le diable prie même plus que toi. Alléluia. Il prie, il parle en langue, il prophétise, il a les visions, il a les songes. La preuve, il te combat chaque jour, non? Toi, tu ne connais même pas la moitié des choses de ta vie, lui connaît la moitié des choses de ta vie. Les rois mages sont venus visiter Jésus. C'était pas des chrétiens, c'était des magiciens qui ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Ça veut dire les méchants peuvent voir ton étoile et déterminer même la course de ta vie avec précision. Alléluia. Et toi, tu ne vois rien. Tu marches seulement. Tu marches seulement. Tu marches seulement. Tu marches seulement. Tu vis ta vie comme si ta vie est ordinaire. Ta vie n'est pas ordinaire. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Alléluia. Ta vie est précieuse. Ne négocie pas ta sainteté avec un moment de joie qui peut t'amener en enfer. Écoutez, nous vivons les temps de la fin. Hein? D'un moment à l'autre, Jésus va venir. Qu'on ne vous trompe pas. Les signes sont là. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes avec les femmes, les femmes avec les animaux, les hommes avec les animaux, les hommes seuls, les femmes seules. C'est tout ce que Jésus a annoncé. C'est tout ce que Jésus a annoncé. L'autre jour, on a vu un des plus grands dirigeants du christianisme dire que faut laisser les gens là entrer aussi. Vous croyez que ça va s'arrêter là? Non, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il y a 4 ans, il y a 3 ans, cet homme, cet leader du christianisme, je ne dis pas chrétien, christianisme, alléluia, a envoyé un représentant au milieu, dans les milieux pentecôtistes, pour réunifier l'église pentecôtiste à ses côtés. Il a envoyé cet homme, un prêtre charismatique. Il est allé rencontrer tous les grands leaders du mouvement évangélique aux États-Unis. Et il y a eu une réunion où ce leader-là a intervenu par vidéoconférence au milieu des pasteurs évangéliques. À ce moment, chacun a dit, c'est déjà foutu. Il y a 2 ans, il a réuni toutes les religions dans son temple. Je ne veux pas dire dans sa ville, dans sa cité. Ils ont signé tous un mémorandum pour la religion mondiale. Ils ont tous signé. Alléluia. Tous signés. Donc, tout ce qu'il fait a la validation de tous les autres. Et donc, il y a un agenda qui est en place. Et toi, tu ne penses que, Seigneur, je vais voyager. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, Dieu a changé mon adresse. Tu peux avoir les voitures, tu peux en faire. Oh. Change d'adresse en vivant une bonne vie, une vie de sainteté, une vie de droiture. Voilà ton adresse qui a changé. Parlez encore. Tu t'es marié. Le mari de ton enfer commence. Je vous ai dit, maman dit que le mariage c'est comme Ben. Vous savez, quand tu arrives en Ben, il y a les gars qui veulent rentrer. Mais quand tu arrives de ce côté, il y en a qui veulent partir. Ceux qui sont là-bas disent, ne venez plus. Ceux qui disent, je vais d'abord mettre le pied aussi. Avant de rentrer. La neige là, ça tombe sur ma tête d'abord. Alléluia. Alléluia. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Suisse, je suis allé en Autriche, je suis allé en France, je suis allé en Italie. J'ai vu des pauvres plus pauvres que toi, frère. J'ai dit, comment on ne passe ça à la télé? On ne montre jamais ça à la télé. On sélectionne les parties qui vont abrutir notre cerveau et nous faire croire que le paradis, c'est là-bas. Le paradis ailleurs. C'est là où Jésus est. Écoutez, la parole de Dieu dit que le ciel est, c'est pavé d'or. Vous avez vu une cité qui est pavée d'or ici? Hein? L'autre jour, on a monté un documentaire, on a vu une rue de la France qui était remplie de poubelles. Je prie que Dieu vous fasse voyager. Parce qu'il y en a qui parlent comme s'ils disent, parle ta part. Parle ta part. Je pars. Même si ça avait un pied, je pars. Que laisse-moi tranquille. Que Dieu fasse, tu partes. Et on en reparlera. Alléluia. On en reparlera. On en reparlera. Alléluia. On en reparlera. J'ai un de mes fils qui est au Canada et un jour il m'a dit, apôtre, tu ne penses pas que tu dois venir un peu nous visiter au Canada? Après il s'est arrêté, il a dit, si ton Dieu permet. Il a dit, tu as bien fini. Tu as bien aimé. L'idéal d'un homme, c'est être là où Dieu le veut. Et non là où les hommes le veulent. Tu peux être là où les hommes te veulent et tu vis l'enfer. Tu vis la sécheresse. Si Dieu te veut à Baganté et tu te retrouves à Paris, tu vas être tous les jours, tu vas dormir, tu vas te retrouver à Baganté. Ce n'est pas les esprits méchants qui te ramènent. Hein? C'est que c'est là où tu devais être. Et c'est là où ta prospérité doit être. Alléluia. Alléluia. Mais tu es à Paris, ton corps est là-bas. Ton esprit est de l'autre côté. C'est pourquoi rien ne marche là-bas. Ton esprit est de l'autre côté. Bien-aimé, écoutez ceci. Une chose qui donne accès à Satan dans notre vie, c'est le péché. Le péché produit des cendres. La sainteté produit la beauté. Alléluia. Ésaïe chapitre 61, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Vous voyez? Les cendres ici signifient une vie de douleur, une vie de chagrin, une vie de regret. Les cendres ici, qui sont le péché, signifient le feu passé. Signifient, il était une fois. Alléluia. Signifie que votre passé était meilleur que votre présent. Et cela déforme votre vie. Cela vous déforme, vous affaiblit et vous prive d'énergie spirituelle. C'est pourquoi nous devons utiliser ce premier jour pour nous repentir, pour repositionner notre cœur, pour repositionner notre engagement, pour renouveler notre engagement devant Dieu. Seigneur, je rentre dans ce moment, pas seulement comme espérant que tu fasses des, tu me donnes la maison. Non, je le fais parce que je veux que ma vie soit en conformité avec ta volonté. Alléluia. Alléluia. Je veux que ma vie te plaise. Te plaise. La Bible dit que Enoch marcha avec l'Éternel. Et un jour, il ne fut plus parce que l'Éternel l'a ramené avec lui. Pourquoi? Parce qu'il plaisait à l'Éternel. Vous savez, tout ce qui plaît à Dieu, Dieu l'enlève rapidement. Vous croyez que vous seul, vous aimez les bonnes choses? Dieu aussi aime les bonnes choses. Enoch a marché avec Dieu. Dieu a dit, mon fils, tu me plais trop. Ta vie là ne peut pas rester là-bas. Pardon, viens me retrouver, on continue. C'est qu'on a commencé à marcher sur la terre ensemble. Viens, on continue à marcher ici. Quand nous irons dans la présence de Dieu, on va retrouver tonton Enoch. Je crois que tu auras plein de questions à lui poser. Comme mon frère, tu as même fait comment? Quelle était ta stratégie de marche? Alléluia. Quand un homme décide de tourner son cœur vers le Seigneur, alléluia. La Bible dit des rois qui ont tourné, qui ont marché comme Dieu, qui ont marché dans le chemin de David, qu'ils ont tourné le cœur vers le Seigneur. De tout leur cœur, ils ont cherché Dieu. De tout leur cœur. Ça veut dire le centre de ta sainteté, c'est l'état de ton cœur. Oui. Oui. Le centre de ta consécration, c'est l'état de ton cœur. David le dit d'ailleurs dans le psaume 4, le verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Dans notre manière, je bénis le Seigneur parce que quand ce matin, je priais avec les points du manuel, je me rendais compte qu'il était question de mon cœur. Il était question de toutes les petites choses que mon cœur, auquel mon cœur a été affecté. Vous vous êtes rendu compte, n'est-ce pas? C'était pas, oh, péché de la sorcellerie, péché de l'idolâtrie. Non. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai manqué de faire ça. Où j'ai manqué d'avoir de l'amour pour mon frère. Où j'ai manqué de prendre telle décision. Où j'ai manqué de suivre ta voix. Vous ne vous êtes pas rendu compte? Et quand je priais, ça me parlait. Je sais pas si ça vous a parlé comme moi. Quelqu'un va dire, mais c'est toi qui as fait le manuel. Mais ça me parlait. Ça me parlait. J'ai dit, merci Jésus. Waouh! J'étais impressionné par celui qui a écrit le manuel. J'ai dit, il a écouté Dieu. J'ai dit, merci Jésus. Je priais. Parce que je me rendais compte que tout le centre de la prière que nous avions fait depuis ce matin, c'était notre cœur. C'était notre cœur. C'était notre cœur. Ça veut dire que quoi? Tu peux être à l'église, tu fais plein de choses, mais ton cœur n'est pas bien disposé. David a dit, donne-moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Est-ce que ton esprit est bien disposé? Il dit, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Psaume 51, je crois le verset 3. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir un esprit bien disposé si tu n'as pas un cœur pur. Tu as besoin d'un cœur pur. C'est pourquoi ce soir, nous allons compléter simplement la prière que nous avons commencée depuis le matin. En disant au Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée-moi un cœur pur. Je crois Ézéchiel chapitre 36, le verset 16. Ézéchiel 36, le verset 16 dit quelque chose de très intéressant. Il dit ceci. Ézéchiel 36, le verset 26, pardon. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez? Et la suite du verset, c'est le verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu si tu n'as pas le cœur de Dieu. Ce qui a rendu la vie de David exceptionnelle, c'était son cœur. C'était son cœur. Dieu l'a choisi pas à cause de ses actions, mais à cause de son cœur. La Bible dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, quelle femme es-tu? Es-tu une femme selon le cœur de... Tu es une femme selon le cœur de qui? Tu es un homme selon le cœur de qui? Hein? Quelqu'un politiquement va dire, je suis une femme selon le cœur de Dieu. Tu es faux. Quelqu'un politiquement, pour être politiquement correct, va dire, je suis un homme selon le cœur de Dieu. On l'acclame, oh bravo. Un pasteur disait, on sera surpris au ciel. On va même voir Pharaon au ciel. Et j'étais choqué, il dit, mais tu étais là quand il s'est repenti. Tu as écouté sa confession. La Bible dit, quiconque invoquera son nom sera Jésus. Le brigand à la croix a dit quoi d'exceptionnel? Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. C'est tout. Il n'a pas dit, pardonne-moi tous mes péchés. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je me repens. Je lave mon corps du sang de Jésus. Et puis, il descend de la croix. Et puis, on l'amène aux eaux du baptême. Il se baptise. Il prend la Sainte Seine. Après, on lui fait le discipolat. Non. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi. Les critères du salut de Dieu ne sont pas les mêmes avec les nôtres. C'est ça que ce pasteur est tenté de nous dire ce jour-là. Qu'il y a des gens que vous allez être surpris de trouver au ciel. Hé, tu es là. Tu as fait comment? Papa, dernière minute. J'ai dit, Jésus, sauve-moi, me voilà. Me voilà. L'autre jour, j'écoutais, j'ai partagé ça ici. Une vidéo où une jeune femme disait à un jeune homme, de quelle religion es-tu? Et le gars dit, je suis chrétien et musulman. Il dit, pourquoi? Ça veut dire quoi? Il dit, non, tu sais, chrétien, si j'arrive là-bas devant Dieu, et que c'est les chrétiens que ça fonctionne avec les chrétiens, mais je suis dedans. Si j'arrive là-bas devant Dieu demain, et que c'est les musulmans, c'est l'islam qui est prioritaire, mais je suis dedans. Et la dame a dit, mais je comprends pas. Il dit, mais je suis une espèce de métis spirituel. Je suis métis. Il dit, le métis, quand il va chez les blancs disent, tu es noir. Quand il vient chez les noirs disent, va là-bas, tu es un blanc. Alléluia. Il dit, c'est pas possible. La fin des temps, on va entendre tout. Et la dame dit que non, mais c'est pas comme ça. Il dit, tu es qui? Tu es Dieu. Laisse Dieu juger ça quand on va se rencontrer. J'espère qu'il n'y a pas de métis spirituel ici. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais tu es autre chose à côté. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a chacun qui va avec sa logique. Qui va avec sa logique? Nous sommes interpellés aujourd'hui à changer notre manière de faire, à changer notre manière d'être, à changer notre manière d'agir et à repositionner nos voies. Alléluia. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, pas de toutes vos actions, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur. La transformation d'un homme vient de son cœur. Si un homme a à cœur de changer, il va changer. Si un homme ne veut pas changer, fais tout ce que tu vas faire, il ne changera pas. Parce que tout est lié à son cœur. Tout est lié à son cœur. Si tu dis à un homme, si tu dis à un enfant, ne touche pas la chaise là, tant que ça ne vient pas de son cœur, tu parles de ta part. Alléluia. Il y a beaucoup de mamans ici. Quand nos enfants avaient 15, 20 ans et qu'elles venaient de tomber amoureux du premier gars, tu te rasais la tête, non? Mais papa, tant que ça ne vient pas de son cœur, elle va sauter la toiture. Elle va attendre que vous allez dormir. Elle va même être capable d'aller acheter le somnifère pour vous faire dormir, pour aller le retrouver. Le matin, quand tu te lèves à 10h, tu dis, hey, on a dormi trop dans la maison-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Le criminel est passé. Alléluia. Le criminel est passé. Nous vivons des temps compliqués. Des temps très, très compliqués. C'est pourquoi chacun de nous doit rediscipliner sa vie. Pas pour X, pas pour Y, pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Pour toi-même, pour toi-même, pour toi-même avec ton Dieu. C'est pourquoi lorsque tu changes par rapport à l'autre, ton changement n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Il y a des gens qui changent pour plaire aux autres. Pour plaire aux autres. Alors si tu acceptes que quelqu'un change pour te faire plaisir, tu détruis la personne. Alléluia. Moi, c'est aussi mauvais quand toi-même, tu as un mauvais caractère. Tu dis, il faut m'aimer comme ça. Il faut m'aimer comme ça. Si tu m'aimes, aime-moi comme ça. Tu es aussi criminel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Faisons ce qui est bien. Amen. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres. C'est ce que Jésus nous enseigne. Si je veux qu'on m'aime, j'aime les autres. Si je veux qu'on me fasse du bien, je fais du bien aux autres. Si je veux qu'on me pardonne, je pardonne aux autres. Si je veux qu'on soit indulgent vis-à-vis de moi, je suis indulgent vis-à-vis des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ne demande pas aux autres de faire quelque chose pour toi alors que tu n'es pas prêt à faire pour les autres. Alléluia. Alléluia. Alors, ce soir, je voudrais que nous continuions dans la même mouvement de l'esprit. Et qu'ensemble, nous nous tenons devant le Seigneur pour dire, Seigneur, aie miséricorde pour moi. Change mon cœur. Ôte ce cœur de pierre et mets à la place un cœur de chair. Vous savez, la particularité d'un cœur de chair, c'est que ce cœur est sensible. Ce cœur est sensible. Ce cœur est avisé. Alléluia. Ce cœur est avisé. Ce cœur est compréhensif. Alléluia. Mais le cœur de Pierre, c'est l'orgueil. Amen. Il y a beaucoup de personnes brillantes qui sont humbles. Hein? Et il y en a d'autres qui sont calmes mais orgueilleux. Alléluia. Je préfère que ma part soit brillante. Alléluia. Non. Quand quelqu'un est brillant et orgueilleux, il peut vite changer. Quand quelqu'un est calme et orgueilleux, frère, mets l'argent de ta veillée déjà en place. Parce que bientôt tu vas mourir. Et c'est cet orgueil qui va te tuer. Alléluia. La personne est calme. La personne ne peut même pas tuer une mouche. Alléluia. La personne est holy, holy. Quand tu le vois à l'église, pendant l'adoration, il pleure. Il pleure, il est sensible. Pendant l'adoration, il sent l'esprit le saisir. Oh Dieu, oh Dieu. Pendant l'adoration, Il a même des visions et des songes, alors que son cœur est dur comme le béton armé. Dieu ne le connaît même pas. Alléluia. Sur quoi vous allez voir une image que le Seigneur va beaucoup employer dans les Écritures, dans les Évangiles. Il va prendre l'image des petits-enfants. Petits-enfants, ils ont le cœur. Ils ne connaissent pas l'orgueil. Alléluia. Quand vous voyez Samuel, vous voyez Ethan ici, vous voyez Joab, toutes ces personnes qui marchent ici avec nous dans l'église. Regardez leur cœur. Mirez votre cœur à leur cœur et dites-moi si votre cœur est sérieux. Alléluia. Alléluia.